Max Doré, Maxine Doré, on est le 14 mars 2019. Je pense que c'est officiellement le printemps. Puis je dis ça, à chaque année, je me fais avoir. Chaque année, je pense que c'est le printemps. Puis à chaque année, le printemps fout le camp. Tu sais, tout le temps, une grosse tempête qui reste. Même, je pense, début avril, à ce point-là. Là. À chaque fois, bordel, je suis là. Puis là, je suis allé dehors. Puis je suis allé enlever ma décoration de Noël. Ouais, ça c'est un peu à chier. Surtout que je suis dans un condo où le monde est sévère ici. Le monde sont chiants. Moi, je vis à Saint-Augustin, puis c'est assez luxueux, la place où je suis. Puis le monde, ils sont pas évidents, OK? C'est vraiment pas drôle, là. Les espèces de coop de condos, il y a tout le temps 3-4 freaks qui vont s'inscrire là-dedans. Tu sais, les plus fous, là, ils vont s'inscrire dans le coop, c'est sûr, OK? Ils vont être dans le conseil d'administration. Hey, écoute, ici, ils envoient des photos dès qu'il y a une infraction sur les courriels de tout le monde. C'est pas une farce, là. Exemple, quelqu'un est mal stationné, on reçoit la photo du char, boum! C'est un gros zoom sur la plaque, puis c'est écrit « Nous ne tolérons pas ça ». Ils sont malades ici, là. OK? Il y a une fois, il y avait une photo, je pense, il y a 2 semaines. Ça dit la salle de jeu en bas était mise en un état pitoyable. On voit, il y avait genre zoomé sur un bonhomme, OK? Tu sais, il y a comme une section Lego, je sais pas quoi. Il y avait un bonhomme par terre. C'était ça, le bordel. Je vous le dis, c'est pas une blague, c'était le bordel, c'était ça. Et il avait zoomé sur le... Tu sais, c'était comme dramatique, là, comme un dramatic effect. Tu voyais comme le petit bonhomme, tu sais, t'es zoomé sur le côté, là. C'était vraiment bon, là, tu sais, genre vraiment du... Hein? C'était du Wes Anderson-like, là, tu sais, c'était incroyable. Mais non, ils sont malades mentales, fait que j'ai enlevé, moi, ma cloche. J'avais une cloche en avant sur ma galerie. Une cloche de Noël encore. j'ai dû en faire chier une coupe. Mais la chose étant, ils viennent plus vraiment m'avertir. Ils sont venus 2-3 fois m'avertir, puis je les ai reçus comme seul je suis capable de les recevoir. Poliment, avec de bons arguments, par contre. En leur laissant comprendre que si c'était juste ça qu'ils avaient à faire de leur journée, ils pouvaient aller le faire ailleurs. Donc, ils viennent plus me voir. Fait que ça se peut qu'ils n'aimaient pas ma cloche, là. Possible qu'ils n'aimaient pas ma belle petite cloche. Mais bon, moi, je l'aime, ma cloche. OK, on va se le dire. Donc, je l'ai enlevé aujourd'hui, ce qui fait que c'est peut-être le printemps. Il y a sûrement une fucking tempête, parce qu'il y en a une au state. Il y avait ça, un power cyclone, je ne sais pas, ils ont des termes exceptionnels. Toutes des choses qu'on vit 22 fois par année, nous autres, mais là, bon, ils vivent un power cyclone, je ne sais pas ce qu'ils ont. Fait que ça, il y a sûrement une autre affaire qui va arriver, il y a sûrement une autre tempête qui s'en vient, mais c'est pas grave. J'aime mieux penser, filer que c'est le printemps qui arrive, aller courir quasiment en Bermuda dehors, tu sais, faire mon... pour faire choquer Pauline la Boomer, ma mère qui aime pas ça. Elle aime pas ça quand je vis ma vie en Bermuda, même quand c'est pas le temps. Elle aimerait ça que je suive les règles. Les règles, pas les règles de la société, mais les règles de la convention sociétaire, tu sais. Mais non, des fois j'aime ça être en Bermuda, mais je remarque même pas. Des fois je sors du garage, on a un garage en bas, tu sais. Je m'en rends pas compte, moi, là, qui fait moins 77 des fois. Je suis fait comme ça. Avant de rentrer dans les news, il y a des belles choses aujourd'hui. Quand je dis belles, c'est pas nécessairement que c'est positif, mais c'est intéressant, du moins, à discuter, à débattre. Avant ça, j'ai vu, tu sais, des fois, ça arrive ça particulièrement sur Prime. C'est le service de streaming. Prime a plus ce type de choses-là. Il y a comme des petits bijoux documentaires qui sortent de nulle part. Ça sort vraiment de nulle part, là. Genre de petites patentes qui peignent pas de mine. Genre, c'est pas très beau, tu vois ça, là, t'sais, ils ont fait une mauvaise image d'intro, c'est mal décrit. Il y en a comme ça, puis il faut pas que tu t'arrêtes à ça des fois. C'est vraiment de bons documentaires. Puis sur Netflix, tout est pas mal léché. T'sais, ils prennent vraiment on sent que Netflix prend plutôt la qualité de la qualité de la qualité. Il y a des choses qui sont moins bonnes que vous aimerez pas, mais t'sais, ils vont pas s'essayer, ils vont pas ramasser, genre, une batch. comme Prime semble faire. Tu sais, Prime, genre, il y a un réalisateur ou une compagnie de production un peu série B, même après B, puis série C, qui leur dit, j'ai genre 100 documentaires que j'ai faits. Ben, tu sais, ils vont dire, ben, regarde, je te donne 10 000 pour les 100. Tu sais, on sent que Prime fait ça. OK? Prime, pour l'instant, a d'excellentes séries faites par eux. Je vous en ai parlé d'une certaine quantité. Mais le reste, dès que c'est pas fait par Prime, là, tu tombes dans le louche. Sur ceux qui allaient sur Prime, vous savez de quoi je parle, tu tombes dans le biz. OK? Ça, c'est bizarre. Mais si tu cherches à travers ça, j'en ai vu deux, trois, là, vraiment, qui m'ont touché. Un, dont une fille qui a été abusée, puis battue, puis tuée. Je me rappelle plus c'est quoi. C'était sa belle famille était folle, solide. C'était quasiment l'histoire de Cendrillon version 2010. T'sais. Mais hier, j'en ai vu une. Je n'avais jamais vu ça. Puis peut-être que vous avez passé ça aux nouvelles dans les années 2000, après le 11 septembre. Il y a une femme, Tanya Head, qui s'est fait passer. Dans le fond, qui est arrivée, puis qui est devenue la plus grande victime du 11 septembre. C'est-à-dire que elle, son mari était mort dans la tour nord, elle était dans la tour sud. Son bras a été brûlé à un niveau absolument débile. Donc, puis c'est une femme très entrepreneur. Elle a fait le groupe, donc, le groupe des gens qui étaient les survivants du World Trade Center. Ça s'appelait le World Trade Center Survivors Network. C'est elle qui avait fondé ça. Elle est devenue la présidente, a eu du financement pour très efficace. C'est le genre de madame de même, là. Il y en a toujours une des organisations de hockey ou des organisations de n'importe où sont comme hyper performantes. Mais souvent, et je vous le dis, moi j'en ai même un exemple dans nos proches que j'ai eu quand j'étais jeune. Souvent, il y a de quoi de louche avec ces femmes-là. Ils sont très, très, très performantes, ils aiment le spotlight, ils sont bonnes, ils sont aimées, mais ça finit toujours mal. Il y a toujours un petit anguille sous roche sur ces femmes-là qui aiment entreprendre dans des comités locaux. Tu sais, genre, elle qui aime être la présidente des Jeannettes, elle qui aime la présidente du Pee-Wee 2C de Laval. Tu sais, ce genre de madame-là, pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, ça finit mal. Dans son cas, elle était rendue big, là. Elle a fait le tour, elle a fait faire le tour de Ground Zero à Rudy Giuliani, au maire Pataki, au sénateur Pataki de New York. Elle était partout, ainsi de suite. Les gens, bon, son histoire était triste, les gens l'admiraient beaucoup, jusqu'à ce qu'un journaliste avec un peu plus de profondeur que les autres. Je pense que c'est le New York Daily News qui a fait un article sur elle en disant... Puis là, le New York Times l'a repris en disant, « Bon, faire une vraie enquête, là. C'est qui, Tania? » Finalement, la fille est espagnole, elle vient d'Espagne. Elle était même pas là le 11 septembre, mais elle était en Espagne. Sa famille, c'est une famille notoire de criminels en Espagne. Puis elle a voulu changer sa vie. Son vrai nom, c'est même pas Tanya Head. Son vrai nom, c'est Alicia Esteve Head. C'est une Espagnole, donc. Elle est venue ici, le genre, 10 jours après le 11 septembre, puis elle a inventé cette histoire-là, puis elle est devenue la reine des victimes. Il faut le faire pareil. Tu sais, c'est du côté plate de la chose, parce que c'est quelqu'un vraiment de... C'est une manipulatrice, une menteuse, mais c'est pareil, là. Elle a quand même un certain talent. Puis c'est là où tous les survivants du 11 septembre sont un peu mal à l'aise. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce en disant « Elle a vraiment fait des bonnes choses, là. » Je veux dire, en dehors du financement, elle a fait une fondation. On a plein d'avancements, donc... À cause de ce missile-là qui était Alicia Head, à Tanya Head, du nom qu'elle s'était donné, qui était complètement une faunée, qui n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Puis c'est pas un crime en passant. C'est surprenant. Moi, je pensais qu'elle avait pu la condamner à quelque chose. Non, elle n'a pas été condamnée à rien. Elle a foutu le camp, on ne sait pas où. Et ça dit à la fin que tous les gens du 11 septembre, en 2008, ont reçu un courriel provenant d'Espagne disant qu'elle s'était suicidée. Mais encore là, ils ne sont pas sûrs pantoute, là. Un courriel un peu anonyme d'Espagne, sans preuve, rien, disant qu'elle s'est suicidée, comme en repartie sur une autre patente. Si ça vous intéresse, c'est sur Prime, mais vous pouvez le voir, j'imagine, sur YouTube ou ailleurs. C'est tellement underground comme documentaire qu'il doit être un peu partout. Écrivez Tanya Head Documentary ou Alicia Esteve Head Documentary September 11 ou Tanya Head September 11. Vous allez voir le documentaire. C'est là, voyons donc. Tu dis, voyons donc, comment quelqu'un peut... Tu dis, personne ne vérifiait. Tu sais, t'es en train de faire la tournée avec tous les ministres, pas les ministres, mais les sénateurs, les députés. T'es avec le maire de New York, puis tout est là, puis tu sais, personne, t'étais même pas d'un tour. C'est même pas vrai que ton mari est mort d'un tour. Puis sa brûlure sur le bras, effectivement, elle avait un bras brûlé. Personne ne sait d'où ça vient. On pense que c'est un accident qu'elle aurait eu en Espagne dans sa jeunesse. Écoute, méchante madame pétée, là. Fait que je vous le suggère, gros, comme... non, tu sais, ça, je dis ça à la fin, tu sais. Comment un peu de suivi, Maxime, là.
Senator, I'm not actually sure what that is referring to.
How many Facebook like buttons are there on non-Facebook web pages?
Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head, but we'll get back to you.
Is the number over 100 million?
I believe we've served the like button on pages more than that, but I don't know the number of pages that have the like button on actively.
How many Facebook share buttons?
Ça, c'est quand notre ami le chevreuil en chef. Notre chevreuil en chef était devant le Congrès avec ses grands yeux ronds, tout le temps comme s'il allait recevoir un char en pleine face. Vraiment bizarre, ce gars-là. Vraiment bizarre, Mark Zuckerberg. Il y a de quoi de louche chez Mark. Hier, vous l'avez peut-être vécu, tout le monde. Vous ne pouvez pas l'avoir vécu. Là. C'est la plus grosse panne de l'histoire de Facebook. C'est arrivé hier. Donc, ça a commencé, nous, à peu près vers 14 heures. Ça s'est terminé vers 18 heures. Pour certaines personnes, ça a duré près de 14 heures. C'est gros, là. C'est une grosse panne pour une compagnie technologique, là. Tu sais, même une petite compagnie underground ou même une compagnie moindrement populaire, moins que Facebook, ce serait énorme. Pour Facebook, 14 heures de panne, c'est débile. C'est difficile à décrire, même il n'y a pas de descriptif. C'est trop gros. C'est à un tel point que l'action, c'est sûr, commence à dropper encore. Je ne dis pas que ça ne vaut pas la peine. Facebook est un bel achat encore. Mais la valeur de l'action hier a encore perdu de la valeur ce matin aussi quand ça a commencé en bourse. Parce que la question, c'est « what the freak happened? » C'est quoi? Parce qu'on n'a pas d'explication encore de la part de Facebook. La première chose que tout le monde s'y dit, la première explication, du moins, qui en semblait une plausible, c'est souvent le cas lorsqu'il y a une panne dans une compagnie majeure, c'est un DDoS attaque. Un DDoS attaque, ceux qui ne savent pas, c'est que bon, les pirates ou le pirate en question envoie des milliards d'informations à partir d'ordinateurs infectés vers le site. Donc, il y a tellement de demandes semblables en même temps que le site plante parce qu'il n'est pas capable de gérer toutes ces demandes-là. C'est un DDoS attaque. C'est la plus populaire, la plus simple à faire pour un hacker. Mais non, je veux dire, Facebook dit c'est pas ça. Ils l'ont dit. Ils ont utilisé Twitter. Ça, c'est une autre affaire qui est drôle parce que ils ont été obligés de parler à travers Twitter. Il n'y avait plus de plateforme. Parce que les plateformes étant affectées n'étaient pas uniquement Facebook. Là. Instagram, propriété de Facebook, était affecté. WhatsApp, qui est énorme, propriété de Facebook, était affecté. Donc, c'était multi-plateforme. On ne pouvait pas poster quoi que ce soit. On pouvait accéder donc à Facebook, tu pouvais lire l'historique. On pouvait comme plus faire rien de nouveau, dans le fond. Tu pouvais juste aller voir l'ancien, tu voyais, tu ne peux plus rien contribuer, il n'y avait plus rien de nouveau qui entrait pendant 14 heures. C'est énorme. Donc, pas encore d'explication de la part de Facebook, ce qui rend le monde un peu bizarre, un peu stressé en disant, mais là, écoute un peu, là, si ce n'est pas un DDoS attaque, ce qui aurait été, c'est clair, c'est réglé, vous auriez dû avoir une meilleure protection que ça. 14 heures, c'est de loin exagéré. Mais, tu sais, je veux dire, c'est voyons donc. Tu sais, t'es comme, c'est quoi le problème, là? C'est quoi le problème? Si c'est pas des DDoS attaques, encore une fois, c'est bon. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. Je sais pas où ils vont en finir. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver de ça. Mais anyway, ça va mal. Ils ont pas d'explication. Il faut qu'ils donnent rapidement. Dans le fond, en gros, là, si on a un résumé à faire, il faut qu'ils donnent une explication de ça. Il faut qu'ils donnent une raison. Il faut qu'ils disent quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose et qu'il explique le pourquoi. Si c'est un problème de codage ou quoi que ce soit à l'interne, c'est beaucoup plus grave. Là. Ça veut dire qu'écoute, pour qu'il y ait un problème de code, qu'il y ait un problème interne chez Facebook, de leur serveur, de leur modus operandi, qu'il y ait une panne de 15 minutes, fine, qu'il y ait une panne de 14 heures, il y a un problème majeur. Là. Quelqu'un qui n'a pas fait sa job quelque part. Ou moi, ce que je pense, si j'avais un guess à donner, OK? Si j'avais un guess à donner, ça serait... facilement et évidemment un boycottage, pas un boycottage, mais un, comment on appelle ça, quelqu'un qui fait du sabotage, quelqu'un qui aurait du sabotage à l'interne. J'irais plus pour ça, moi. Parce que récemment, on a entendu des rumeurs sur Facebook disant qu'il y a bien du monde qui n'aimait pas l'atmosphère chez Facebook. Il y a un documentaire récemment là-dessus, sur CNN, qui disait qu'il y avait comme une espèce d'esprit de stress, un esprit agressif chez Facebook. Les gens n'étaient pas bien. C'est pas plaisant de travailler chez Facebook. C'est, beaucoup de monde commence à dénoncer ça. Et j'ai pas de misère à le croire parce qu'une philosophie part de son président. Vous voyez le président, il est pas capable de s'exprimer. Il a l'air mal dans sa peau, là, notre chevreuil en chef. Il a l'air mal à l'aise. Donc, il y a comme un malaise chez Facebook. Donc, moi, si j'avais à trouver une raison pour laquelle c'est arrivé, c'était aussi longtemps que ça. Donc, c'était profond dans les serveurs de Facebook, c'était profond dans leur codage. J'ai l'impression, puis ça vaut ce que ça vaut, ça peut ne pas être ça, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être quelqu'un à l'interne chez Facebook qui aurait fait ça. Qui a accès assez loin dans le codage de Facebook, qui est en sacrement pour X raisons. puis qui a foutu la merde à l'interne. Je sais pas. On verra ce qu'il y en est, mais c'est bizarre. C'est bizarre, OK? J'aime pas ben la patente, puis bon, pour rapport là-dedans, là, mais je veux dire, je trouve ça bizarre. Fait qu'on verra ce qu'ils vont donner. Ils vont donner l'explication, j'imagine, aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix, comme, de rapidement donner ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ils le cachent encore. Je trouve ça weird.
Amy and I are happy to share with you that I'm running to serve you as the next president of the United States of America. This is a defining moment of truth for this country and for every single one of us. The challenges that we face right now, the interconnected crises in our economy, our democracy, and our climate have never been greater. And they will either consume us or they will afford us the greatest opportunity to unleash the genius of the United States of America. In other words, this moment of peril produces perhaps the greatest moment of promise for this country and for everyone in...
C'est officiel, Beto, que j'aime son nom. Puis je vous le dis, une des raisons pour laquelle ce gars-là... Puis moi, j'ai fait une prédiction il y a un mois, là. Ça fait un mois que j'ai fait une prédiction. Tu sais, c'est une prediction, là. Ça, je vais la faire comme ça, ma prédiction. Beto O'Rourke, représentant démocrate aux élections 2020. C'était ce que j'avais donné. Je l'ai dit il y a un mois, la personne qui va sortir... Parce que, pour l'instant, il y a plein de démocrates, donc, qui se présentent. C'est bourré de démocrates. Joe Biden, on n'est pas sûr encore, mais il pense sûrement qu'il va se présenter. Warren, il y a plein de monde qui se présente, donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Parce que beaucoup de monde veulent tasser le psychopathe Donald Trump, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui se présente présentement. Là. Okay? Et ça va finir, donc il va y avoir un nominé démocrate. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, ce n'est pas les élections. Tous ceux-là se présentent pour... Ils parlent entre eux, dans le fond. Ils sont en train de faire une décision entre démocrates. À savoir qui va être le représentant démocrate. C'est ça qui est en train de se passer. Moi, j'ai dit il y a un mois, et là encore plus aujourd'hui, je le répète, le gagnant, celui qui va se présenter contre le psychopathe Trump, c'est Beto O'Rourke. C'est lui qui va se présenter. C'est un long statement, c'est un shocking thing, parce que Beto O'Rourke n'a même pas gagné au Texas. Non, il n'est pas élu présentement. Il s'est présenté contre Ted Cruz, mais a perdu. Par contre, je l'ai expliqué à l'époque, et je le réexplique aujourd'hui, la raison pour laquelle Beto va être le député, le représentant démocrate aux élections. Number one, il vient du Texas. C'est un énorme avantage pour un démocrate parce qu'il va aller chercher des votes cruciaux dans le Sud qu'un démocrate n'a pas. Même s'il ne gagnerait pas dans le Sud, il va aller chercher une partie des votes nécessaires ou peut-être un ou deux endroits nécessaires pour qui ferait gagner les démocrates aux élections de 2020. Donc ça, c'est un gros plus du fait qu'il y a un buzz going sur lui au Texas. Il ne faut pas oublier... Les gens parlent du Texas en disant « Oh, le Texas, tu sais, c'est des cow-boys, etc. » Non, il y a une grosse communauté de hipsters au Texas, dans le coin de... Il y avait le South by Southwest en fin de semaine passée. C'est gros, le South by Southwest. Et ça se tient à Austin. Austin, au Texas, c'est vraiment une communauté hipster. C'est comme un genre de Seattle, un Santa Fe, un Portland du Ouest américain, d'habitude, qui est tout dans ce coin-là, la gang de hipsters. Ils sont rendus dans le Texas, dans le coin de Austin. Donc, oui, il y a du monde qui vote démocrate d'aplomb dans le coin du Texas. Donc, Beto a un vibe going. Deuxièmement, et c'est pour ça que je l'ai dit au début, c'est le fun de dire Beto, c'est con, hein? Son nom est freaking marketing. C'est con. Je veux dire, hey, écoutez, on a des documentaires qui nous ont dit que Kennedy avait gagné dans un débat contre Nixon parce qu'il avait l'air plus préparé, il avait l'air moins fou, il avait l'air... C'est pas contre Nixon, c'était contre qui, non? Contre qui était... La personne avait l'air... En tout cas, il y avait un débat, le fameux débat... où lui s'est maquillé, s'est fait bronzer avant d'y aller, puis l'autre était stressé, je pense que c'est Nixon. Il s'était préparé, mais il n'avait pas fait les mêmes préparations. Lui, il avait été préparé mentalement pendant que Kennedy, lui, savait qu'il allait être à la télévision. Mais l'autre aussi, il le savait, mais connaissait le pouvoir en plus de la télévision. Il s'était bronzé, il avait fait ci, il avait fait ça. Fait que quand il est arrivé, donc, devant la télé, Kennedy paraissait beaucoup mieux, puis ça a aidé, c'est con de même. Beto O'Rourke a un nom qui fait, on se rappelle de Beto. Il y a plein de jeux de mots que tu peux faire, il y a plein de patentes qui se font avec Beto O'Rourke. C'est cool, Beto, OK? Le gars est cool aussi. Troisième raison, il est intelligent, il est viral, il est jeune. Il va chercher une nouvelle génération de démocrates et je pense qu'il peut aller chercher une nouvelle génération de républicains. La seule chose que j'ai pas vue de lui encore, je sais pas comment il va réagir, qui est essentielle, il faut qu'il soit un fighter. Mais il faut qu'il soit un fighter contre Trump. Il faut qu'il l'envoie chier solide en partant. Il faut qu'on sache. Les gens ont besoin de voir quelqu'un, sachant que Trump est un psychopathe. Par contre, les gens ont besoin de voir quelqu'un qui l'envoie chier solide. Pas qu'il lance des insultes pour insultes, insultes pour insultes, insultes pour insultes. Mais il faut que rapidement, il tasse du revers de la main, mais raide. OK? Moi, j'irais jusqu'à dire, parce que là, déjà là, aujourd'hui, Trump a lancé, il fait tout le temps ça, il prend une caractéristique de son adversaire, puis il en fait son nom. Il y avait Lying Cruz, Lying Ted Cruz, il y avait Jailer Up avec Hillary Clinton. Il y avait tous des noms de marde qu'ils leur donnent, puis ça reste dans la tête des gens, puis ça marche pour une certaine catégorie d'êtres humains. Il a déjà commencé avec Beto aujourd'hui. Les gens, ils ont dit, hey, Beto a demandé parler de sa candidature, qu'est-ce que t'en penses? Ils disent, avez-vous remarqué comment il bouge ses mains? Il a l'air fou. Je suis pas sûr qu'il est tout là, ce gars-là. Il a déjà commencé à le dire que c'est un fou qui bougeait trop de ses mains. Je suis plus capable d'entendre Donald Trump. Je suis plus capable d'entendre cet homme-là. Je suis dans les news tous les jours. Je ne suis plus capable d'entendre ce malade mental-là. Anyway. Donc, Beto, rapidement, moi, ce que je fais, je vous le dis. Peut-être que ça passerait pas. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste en politique comme eux le sont. Mais moi, ce que je ferais, je prendrais à peu près 4-5 psychiatres majeurs aux États-Unis. Okay? 4-5 psychiatres de grosses universités, de grosses institutions aux États-Unis. Je ferais faire le test de psychopathie à Donald Trump par ces psychiatres-là. Et c'est sûr qu'ils ne peuvent pas arriver et dire officiellement, ils ne le rencontrent pas. Il y a sûrement une façon de passer le test. Je l'appellerais psychopathe Trump en disant que j'ai les données, que c'est officiellement par des médecins. Cet homme-là a tous les traits d'un psychopathe. Moi, j'irais avec ça. Je le ramasserais en partant. Je dirais que j'ai une étude à plusieurs personnes sur les traits que cet homme-là est un psychopathe. Je commencerais déjà avec ça et je le mettrais de côté et je ferais ma campagne. Et dès qu'il reviendrait, automatiquement, je repousserais toujours la même analyse, le même commentaire en disant « Mais oui, mais il est psychopathe. Faut pas y en vouloir, c'est un fou. Il est psychopathe, ce gars-là. » Carrément comme ça. Dès qu'il ferait quoi que ce soit, dès qu'il m'attaquerait, je ne répondrais pas à ses attaques sous le prétexte que c'est un psychopathe et on ne doit pas répondre à un psychopathe. Bang! Ça le mettrait en sacrement. OK? Que ces attaques ne fonctionnent pas, ça le mettrait. Anyway, je sais pas comment Beto, je me surprendrais qu'il le fasse à ce point-là, mais il faut qu'il fasse quelque chose d'intense. Il faut qu'il fasse dans le dash, il faut qu'il fasse quelque chose d'intense s'il veut que ça fonctionne. Sinon, ça donnera rien. Fait que Beto se présente, donc rien de nouveau, là, mais pareil. Félicitations, Beto. Félicitations pour ta présentation, puis j'espère que c'est Beto qui va gagner, je vous le dis. J'espère, puis je le sens, j'ai le feeling que c'est lui.
All in all, I'm really happy with the sales result. We grew by more than 4%, which is, I think, good for us. It shows it's a new product, it's coming along well. We grew around the world, which means we have the right strategy, so I'm quite satisfied with 2017. Yeah, Jetta is for Volkswagen.
C'est le CEO de Volkswagen. Le CEO, donc le président, CEO en anglais, Chief Executive Officer, c'est lui, donc c'est le chef dirigeant de notre belle business Volkswagen. Volkswagen, en partant, puis avant de parler de la nouvelle, c'est important de savoir, puis tu sais, il n'y a pas des millions de compagnies, il y a plein de compagnies allemandes qui s'en sont sorties, puis écoute, c'est hot qui s'en soit sorti. Là, comme exemple, avec le véhicule officiel de Hitler, c'était une Mercedes. Il était fier de sa Mercedes. C'est juste ça, associé à ça. Mais bon, les gens ont pardonné parce que c'était pas non plus. Mais Volkswagen, donc, qui veut dire, pour le dire qu'ils ne savent pas, voiture du peuple, Volkswagen, Wagen Vehicle, Volkswagen Peuple, la voiture du peuple, Volkswagen, ça a été créé par les Allemands, par les nazis. C'est eux qui voulaient avoir un véhicule pas cher pour le peuple, pour que le peuple puisse aller sur les autobahnes, parce que les nazis ont créé les autobahnes, donc les autoroutes. Donc, ils voulaient avoir des véhicules pour que les gens aillent sur leur autobahn. Donc, en partant, Volkswagen a un historique, une histoire louche, OK? Donc, quand t'es président, quand t'es CEO de Volkswagen, tu sais, puis t'es allemand et que ta compagnie origine des nazis, tu fais attention. Tu sais, je veux dire, tu prends le dossier nazi avec une pelle, tu sais, je veux dire, tu l'approches même pas. Et le dude, notre ami Herbert Dice, au contraire, s'est mis les pieds dans les plats cette semaine, mais de façon magistrale. Mais là, je veux revenir à ce que j'ai fait un spécial sur les psychopathes, OK? Je tenais avec ça, mais il y en a... Ils sont surtout ceux qu'on voit à la télévision, ceux qu'on voit, les gens importants, dans le fond, souvent, au niveau politique, au niveau business, sont régulièrement des gens avec beaucoup de traits comme ça. Pour se rendre à ce niveau-là, il faut que tu sois particulier. Et je l'ai dit dans ceux qui ont écouté le documentaire en question, le spécial que j'ai fait sur les psychopathes, les métiers les plus adorés par ces gens-là sont la business, numéro un. Et dans ce que j'avais dit, justement, il y a un trait de ces gens-là, ils se mettent souvent les pieds dans les plats. OK? Ils se mettent souvent les pieds dans les plats, les psychopathes, parce qu'ils ne comprennent pas la gravité des choses, ils n'ont pas d'émotion. Pour eux, il n'y a rien de grave, rien d'autre qui est grave à part ce qui les concerne. Donc, tout ce qui ne concerne pas leur propre personne, leur enrichissement ou leur pouvoir, n'importe peu, que ce soit 1 million de morts, 10 millions de morts dans un sujet, ça, c'est pour eux, ils vont le respecter parce que les gens le respectent. Mais eux, personnellement, ils n'en ont rien à foutre. Ça n'a rien changé dans leur vie. Ils n'ont aucune émotion, que ce soit 1 mort ou 1 million de morts, ça ne change rien dans leur vie. Et à certains moments, donc, ils vont faire ou dire quelque chose de fou sans qu'eux s'en rendent compte, là. T'sais, ils vont dire quelque chose parce que pour eux, ils ne le sentent pas. Ils ne voient pas la gravité. Écoutez bien ce que notre ami Herbert Dies a dit cette semaine. Il a utilisé, donc, en parlant à ses employés, la phrase « Ebit Mensch frei ». Donc, c'est une compagnie, c'est un événement à l'interne. C'était juste les employés qui étaient là. Donc, il a utilisé « Ebit Mensch frei ». Ce que ça veut dire, cette phrase-là, il voulait les motiver, ses employés, c'est la phrase, donc, si on traduit « Ebit Mensch frei », ça veut dire « Work set you free. Donc, le travail te libère. Et où était écrit Arbit Mike Fry? C'est le mojo, c'est à l'entrée de Auschwitz. C'est le modo, c'est la philosophie de Auschwitz, le mensonge que les nazis donnaient aux juifs quand ils rentraient pour qu'ils travaillent sans cesse. C'était de leur mentir en disant le travail vous libérera. Arbit Mike Fry. C'est ce qui est écrit sur la grille quand vous rentrez à Auschwitz. C'est écrit encore. Ils ont gardé Auschwitz avec raison pour que les gens y aillent voir l'immensité de la tragédie, pour plus que ça arrive jamais. Le CEO, le président de Volkswagen, avec un historique comme Volkswagen a, dit à ses employés en riant, « Ebit Mensch frei ». Mais on se dit, comment un être humain peut dire ça sans voir qu'est-ce qui va venir avec ça. Comment quelqu'un peut sortir cette phrase-là dans sa position à lui, avec autant de gens? Ça revient à ce que je vous ai dit. Ils ne sentent pas les émotions. Ça sort tout seul. Pour eux, c'est comme de dire qu'ils vont au dépanneur demain. C'est juste drôle. Ils trouvent ça drôle. Lui, c'est un jeu de mots qui était mignon. C'est comme ça. « Ebit Mensch frei. Le travail va vous libérer. Allez travailler, mes employés. » C'est incroyable. C'est incroyable que cet homme-là utilise ça. Que cet homme-là dise ça, c'est fascinamment fou. Mais reste que, bon, c'est nos psychopathes en chef, il y en a partout. Ils sont partout, sont contents, sont heureux, ils font leur grosse putain de marde, puis, ah ouais, la grosse vie, la grosse galère, lui, Herbert, il s'excuse, il va s'excuser, c'est sûr. Comment tu peux justifier ça? Comment tu peux dire, ah, excusez-moi, j'étais pas, tu sais, t'as pas pensé à quoi, mon ami? Voyons donc, tu sais. Je sais pas si y a quelqu'un qui reconnaît pas ce thème-là. Il y a des thèmes de même, hein? Ils ont tellement fessé, donc c'est le parrain, c'est sûr. Il y a un gros événement dans le monde de la mafia qui n'est pas arrivé depuis 1985. Ça s'était calmé. Hein? La mafia italienne, donc, à New York, la famille qui est présentement au pouvoir, la famille Gambino, ça s'est calmé parce qu'ils ont compris que ça ne servait à rien de se péter la gueule. Okay? Ils ont comme réalisé que ça attirait l'attention des médias, ça diminuait leur pouvoir. Donc, ils se sont comme plus transformés en hommes d'affaires. Okay? Les mafiosos ont levé à Montréal une couple d'années avec les enquêtes, avec la ville de Montréal, tous les contrats, puis ainsi de suite, il y avait plein de mafieux autour. C'est là qu'ils se sont en allés. Okay? Ils ne sont plus dans des chambres d'hôtel entourées de gardes du corps, en train de dealer eux-mêmes la cocaïne. Ils font plus ça. Ils le font encore, le deal de drogue. Très, très en dessous d'eux. Ce n'est plus du tout lié à leur activité. C'est des sub, compagnies légales. Donc, ils ont beaucoup de compagnies légales qui font la marde pour eux. Donc, c'est très difficile de se rendre à quelqu'un comme le leader qui était Frank Kelly. Donc, depuis 1985, on dirait qu'ils ont comme catché. Okay? C'est beaucoup moins... on entend le moins parler carrément. On n'entend même plus parler. Littéralement, on se demandait s'il était encore là. Donc, aujourd'hui, Frank Kelly a été abattu. Comme dans le temps. Là. Donc, il n'y avait pas eu d'assassinat comme ça d'un patron de la mafia, d'un parrain, depuis 1985. Frank Kelly a 53 ans. Pas vieux, le dude. Hein? Il était dans le Todd Hill District, dans Staten Island. Il a été tiré. Il sortait de son char, paf, énormément, je pense, 10-15 balles. Ils l'ont vraiment pas raté. C'est un assassinat, c'est évident. De toute façon, tu sais, quand t'es un chef de la mafia, tu te fais tirer dans ton parking. Donc, c'est le premier assassinat d'un mafioso depuis 85. Ça fait longtemps, là. Ça fait quasiment 30 ans qu'il y a eu cette accusation. Ben, ça fait 30 ans. 85, 95, 95. Oui, ça fait 30 ans. Ça fait 32 ans. Donc, il n'y a pas eu d'assassinat depuis 30 quelques années. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va. J'imagine que ça va repartir une guerre. Une famille ne peut pas... Tu sais, n'importe qui dans ce milieu-là, tu ne peux pas te laisser faire. Tu ne peux pas accepter d'être assassiné comme ça, que ton clan soit attaqué comme ça sans rien faire. Parce que, bon, ayant été assassiné, il y a un compétiteur, à moins que ce soit à l'interne que le dos devait péter les plombs. Mais sinon, il y a une famille compétiteur ou il y a un clan compétiteur, il faut que tu réagisses. Fait que ça n'a pas le choix de démarrer quelque chose. Fait qu'on va voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'est-ce qui va arriver de ça, mais je verrais mal la raison pour laquelle ça démarrerait, donc pas une guerre quelconque. Moi, je pense, c'est certain, ça s'impose, il y a quelque chose qui va émaner de ça. Mais c'est toujours intéressant. C'était plate pour eux, mais pour nous, ça fait des bonnes news. Hein? Pour nous autres, ça fait des bons shows, des bons spectacles entre eux autres. C'est très cinématographique, la mafia italienne, c'est très... Je ferais une émission spéciale sur l'origine de pourquoi les mafiosos italiens sont si rootless. D'où viennent-ils? Ils viennent de Sicile. Il y a une raison. Il y a une raison il y a à peu près 2000 ans pour laquelle ces hommes-là et ces femmes-là sont comme ça. Il y a une raison dans l'histoire romaine pour laquelle d'où l'origine, dans le fond, de ces mafiosos-là et de leur façon d'être très, très, très raide, très, très dangereuse, très, comment le terme que je cherche, sans merci, dans le fond, ou très violente, ça vient de révolutions d'esclaves qu'il y a eu il y a 2000 ans. Je ferai un épisode là-dessus, je vous le promets. C'est vraiment intéressant. Vous avez l'origine de ces gens-là. C'est pas l'origine de la mafia. C'est l'origine de la génération qui, par la suite, a fait des hommes comme ça. Ça vient d'une révolution d'esclaves dans les années 100 ou 200 après Jésus-Christ. C'est très, très, très intéressant. Je reviendrai là-dessus. Mais pour l'instant, il y a un mob boss qui a mangé une claque sa gueule, puis plus qu'une claque sa gueule, il est mort, sacrément.
The demand for something new. Volatile markets. New competitors. Cost control. You deal with challenges like these every day, and you conquer them. Your business decisions at crucial points position your airline for future success. The Boeing 737 MAX is one of those decisions. Why? Let's start with efficiency. The MAX uses 14% less
fuel. Ça, c'était la présentation du Boeing. Le Boeing 737 MAX de Boeing 737 de Boeing, tu sais. La question, aujourd'hui, finalement, Trump, encore là, c'est lui qui s'est mis de l'avant. C'est malade mental. Il n'y a pas rapport nécessairement à dire on va grounder les avions, comprenez-vous? C'était pas à lui de faire ça. Il y a une commission en dessous de lui qui est supposée le faire. Il y a la FAA, je pense. Federal Aviation Agency, je pense que c'est le FAA qui est là pour ça. Et c'est lui qui l'a fait, là. Non, si, il est vraiment, vraiment sociopathe. Il faut toujours qu'il soit à l'avant-scène. Il faut tout le temps que ce soit lui qui prenne les décisions. Il a dit qu'il n'y a personne qui connaissait mieux l'aviation que lui. Je vous le gueule. Il a dit ça encore. Il n'y a personne qui sait ça mieux que moi, mais de toute façon, on le sait, nous autres. Là.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better to people with disabilities than me.
Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans.
There's nobody that's done so much.
On n'est pas à court de nobody's better avec lui. Mais la question, on parle de Trump, on ne revient pas sur lui. La question, c'est que c'est grave, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, pour une raison financière, manifestement, voulant protéger Boeing, qui est un ami proche de Trump, il y a des gens qui travaillent pour lui qui sont d'anciens VP de Boeing, ont pris beaucoup de temps à grounder les avions. En mettant la vie de monde en sécurité, manifestement, parce qu'ils l'ont fait, ils ont vraiment clairement indiqué que c'était le cas et qu'ils auraient dû le faire. Tout le monde le fait il y a une semaine. Pourquoi les Américains l'ont fait hier? Pourquoi? Ça n'a aucun sens, là, je veux dire, c'est vraiment un manquement. Il y a eu un problème, là. Ils ont mis, donc, pendant quelques jours, la vie des Américains en danger pour des raisons financières, pour protéger Boeing. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre commentaire à faire là-dessus. C'est la seule et unique raison pour laquelle ils l'ont fait. Si ça avait été Airbus, laissez-moi vous dire que le lendemain du crash, l'Airbus qui est français, le lendemain du crash, ça aurait été fini, final bâton, l'avion a été groundé aux États-Unis. Donc, c'est dégueulasse qu'est-ce qu'ils ont fait là. Ils ont pris du temps. Et ce que j'aime des fois des Américains, il y a des belles choses aux États-Unis. Les gens le disent, les démocrates, beaucoup de monde sont frustrés en disant ça aurait dû être groundé bien avant. Et que les démocrates en parlent, c'est une chose intéressante. Parce que où est Boeing? Boeing est à Seattle. C'est un bastion démocrate, Seattle. Et les démocrates sont quand même frustrés qu'on n'ait rien fait avant. C'est quand même bien, là. De dire, hey, on a mis la vie du monde en danger. Tout le monde était d'accord qu'il fallait grounder les Boeing 737 MAX 8 après le crash qui a eu lieu en Éthiopie. Il fallait faire quelque chose. C'est évident que l'avion a un problème. C'est le deuxième crash. C'est pas normal. Et ils ont pris tout ce temps-là à le faire. Puis c'est le président qui a décidé de l'annoncer, notre psychopathe en chef, qui a décidé que lui, nobody's better in playing than me, il l'a dit. Comme vous avez entendu, nobody's better in the Bible, nobody's better with handicap. Ben là, nobody's better than him dans l'aviation. C'est officiel, il est maintenant meilleur aussi dans l'aviation. Tu sais, je veux dire, c'est son curriculum vitae à lui. J'aimerais qu'il fasse un curriculum. Voir qu'est-ce que ça donne. L'imaginer faire son curriculum vitae, lui. Tu sais, t'es là. Compétence. La portion compétente. OK. Nobody's better than me in. Là, il part, tu sais. Bible, handicap, plane, war, ISIS, fighting, presidency, CEO, business, love, relationship. Il met tous les secteurs de l'humanité. Il met tout un par un dans Nobody's Better Than Me. T'es là, wow, you rock. Il est-tu pas là? Il est incroyable. Ça me surprend que ça passe. Anyway, en parlant d'un psychopathe, on va changer d'un psychopathe à un autre assez rapidement. Là. Après, je vais trouver mon introduction. J'ai tellement d'intros que je suis comme tout perdu dans mes intros. That's it.
The messages are slick, filled with graphics aimed at young, left-leaning Americans getting news from social media. And the videos have been viewed tens of millions of times with messages like this.
It's pretty amazing that the same country that spent 2 years screaming about alleged Russian election meddling in 2016 is now applauding U.S. meddling in Venezuela.
But what people watching these videos may not realize is that the Russian government is paying for this. Soapbox wasted back then are three new...
C'est, Trump lui dit qu'il n'a jamais eu lieu durant les élections. C'est vraiment la nouvelle façon de faire dans les années 2020. C'est de faire de la fausse information sur les réseaux sociaux. C'est la façon que les compagnies de propagande, tous les gens qui sont forts en propagande utilisent. C'est comme ça que tu fais ta propagande, c'est comme ça que tu passes ton message. Facebook a dit qu'elle allait travailler là-dessus. Là, tu vois, il y a un excellent reportage de CNN là-dessus. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle Mafic Media à Berlin. Donc, c'est à Berlin, tu dis, c'est mignon, c'est à Berlin. Mafic Media, qui a fait 3 pages, donc, avec des vidéos qui sont particulièrement orientées vers les millénials, donc les jeunes entre 16 et 30 ans. Puis c'est hot ce qu'ils disent, là. Tu sais, vous avez entendu l'exemple. Tu sais, ils attaquent vraiment toutes les valeurs américaines avec des gens qui semblent déterminés en disant « Le gouvernement dit ça, mais de l'autre bord, avez-vous vu ce qu'il a fait avec ça? » C'est vraiment pour... C'est vraiment de créer, de lancer des cocktails Molotov humanitaires. C'est vraiment de lancer des cocktails Molotov émotionnels à travers les States. C'est génial, c'est bien fait, ça marche. Des millions de views, ça craint que les gens qui connaissent rien, ça les craint solide. Et les Russes sont repartis, là. Ils sont repartis pour 2020. Ils n'arrêteront pas, c'est la façon de faire maintenant. De craquer le peuple avec des fausses informations, mais qui craquent le monde à voter d'un sens ou à voter de l'autre. C'est ce qu'ils ont fait en 2016. En 2016, malheureusement, on n'était pas appareillé pour se battre contre ça. On ne savait pas comment, ou d'où ça venait, ou on ne connaissait même pas le fléau. Aujourd'hui, en 2020, le fléau est connu. Donc, j'imagine que bientôt, on va commencer une campagne américaine de sensibilisation aux gens, en disant, écoutez, il faut faire attention, là, c'est, la merde est partie. Mais en même temps, ce genre de vidéo-là aide Donald Trump. Donc, je ne sais pas s'il y a intérêt à faire une campagne de sensibilisation, mais c'est reparti déjà. Donc, il y a 3 sites majeurs avec des millions de views. Pourquoi? Ben, écoutez, ça vient de Mafic Media à Berlin. Il suffit d'une enquête de 2 minutes d'un bon journaliste à CNN qui dit ça. Mafic Media, le propriétaire à 100% de Mafic Media, c'est RT, Russian Television. RT qui est la machine de propagande du Kremlin. Donc, RT, c'est vraiment... RT, techniquement, c'est un genre de CNN russe. C'est ce qu'est RT. Russian Television, c'est les nouvelles russes. Mais tout le monde sait, et des rapports de la CIA ont été faits, des rapports de n'importe quel institut que tu cherches à travers le monde, sur le MI6 ou peu importe, savent que RT, c'est le joujou de pas Donald Trump, mais le joujou de Vladimir Poutine. C'est à travers RT qu'ils passent toute leur propagande pour contrôler la Russie. Ils passent par RT. Ils le font à l'interne, les Russes. Ils le font eux-mêmes à l'interne avec Russian Television. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne le feraient pas à l'externe avec Facebook ou ailleurs. Ils le font. Les Russes qui, de plus en plus... Tu sais, j'ai fait un spécial sur Trump. Pas sur Trump, mais je me trompe. Trump, c'est tellement semblable, ces deux-là. Poutine et Trump... Non, Poutine est beaucoup plus intelligent que Trump. Non, ils ne sont pas semblables. Poutine a de loin une intelligence plus grande que Trump. Mais Poutine... Donc, je disais qu'il était nécessaire à la Russie pendant les 20 ans où il était là, à date. Parce qu'il fallait un bandit pour gérer des bandits, pour les mettre au pas. Mais tranquillement, je l'ai dit, à la fin, il va se transformer en dictateur, le gars, là. Il va se transformer tranquillement en dictateur. Ça va s'en venir lourd. C'est ce qu'il est en train de faire. Là, de plus en plus, là, ça commence solide. Là. Il bloque l'Internet de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il commence à faire comme la Chine. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas en Russie au niveau Internet. Contrôle les médias, assassine tout le monde. Ça, il le fait depuis longtemps, mais il le fait de plus en plus. RT Télévision. Donc, c'est, il commence à s'asseoir sur son pouvoir. Je n'ai pas l'impression que Vladimir Poutine va jamais donner willingly, donc de sa propre volonté, le pouvoir à quelqu'un d'autre. Peut-être à quelqu'un comme Medvedev, comme il le fait à l'époque. Il a fait un faux, il a mis un faux dirigeant, c'est lui qui était derrière. Mais je parle d'un parti complètement différent. Je pense pas qu'il laisse ça aller sans qu'il y ait de la violence en Russie éventuellement. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Moi, je dis que dans 10-15 ans, pas tout de suite, parce que les gens ont encore besoin de ce tog-là. Quand les gens vont s'écœurer et ont besoin d'un peu plus de liberté et revenir à ils vont être écœurés d'avoir l'air de ce qu'ils ont l'air à travers le monde, parce que de plus en plus, étant dirigés par un dictateur, il va falloir qu'ils utilisent la violence. Ils n'ont pas le choix. Ça va mal finir. Ça va mal finir avec Poutine. Ça ne peut pas finir autrement. Le gars ne laissera pas le pouvoir. Pour l'instant, semble être un nice parce que ça va bien. Les gens l'aiment, donc les gens semblent... Tu sais, les gens disent « il est là parce qu'on l'aime ». Ouais, mais quand vous allez réaliser qu'il est là parce qu'il est là, puis que vous l'aimiez ou pas, il est là, ça va changer la game. Tu sais, ça va changer la game, littéralement. Donc, ça ressort encore, ça recommence encore les fake news. Ben c'est pas nécessairement des fake news. Ça, c'est pas une nouvelle, dans le fond. Ils vont pas parler d'une nouvelle qui est fausse. Ce qu'ils vont faire, c'est de l'influence. C'est influencer tout court. Là. C'est des jeunes qui parlent avec autorité, des jeunes Américains qui donnent un discours sur certaines idées pour influencer donc d'autres jeunes à avoir ces idées-là. C'est pas nécessairement des fake news. C'est plus la motivation. Une motivation avec des idées préconçues. Là. C'est la base d'un régime dictatorial, c'est de faire ça. C'est de brainwasher ton peuple avec des idées. Leur faisant croire que c'est des gens normaux comme eux qui pensent ça, ne sachant pas que le discours a été écrit, a été dicté par des gens derrière le pouvoir. Donc, c'est la base de la patente. Donc, ils sont intenses au stade. Ils le font partout dans le monde. Et nous, on commence à le faire. C'est pour ça que les Russes commencent à bloquer Internet. Ils savent qu'on va le faire de l'autre bord. Les Américains sont frustrés de 2016, donc ils savent que la CIA va se mettre à les faire chier solide de la même façon, en faisant des messages contre Poutine, puis en essayant de le déstabiliser. Donc, eux bloquent Internet. T'sais, eux, ils s'en sacrent la loi. C'est toujours plus facile quand t'es un gars comme ça. Au lieu de passer par le Congrès, quoi que ce soit, dire on bloque Internet, là, je sais que la marde va arriver des States. Ils vont essayer de nous faire la même chose qu'on leur a fait depuis une dizaine d'années. Fait que on va. Ils se cassent pas trop la tête, notre ami Vlad. Hein? Vlad, se casse pas trop la tête, tu sais. C'est comme ça qu'il fonctionne, mais bon.
Nobody can do it like me. Okay. Nobody. Nobody can do it like me.
Okay.
Honestly.
What? Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
C'est ma préférée. Je vous le dis souvent. Nobody loves the Bible more than I do. Une phrase qui, en même temps, démontre sa folie. Ça démontre sa folie. Tu peux pas dire ça. Comprenez-vous? Tu peux pas dire ça. C'est contre les valeurs chrétiennes de dire que nobody loves the Bible more than me. C'est juste là, le jupon dépasse du double. Tu sais, je veux dire, c'est impossible de dire quelque chose comme ça, que ça soit réel. Là, tu sais. En tout cas, anyway, je veux pas passer 10 ans là-dessus, mais il me fait rire. Au moins, il dit merci. Autant que j'étais curé de l'entendre, ces commentaires comme ça, je pourrais écouter ça des heures de temps, de dire, man, ça se peut pas, ce gars-là est sénile. Tu sais, c'est impressionnant à quel point ce gars-là, le gars est malade mental. Donc, thanks, c'était les news qu'on avait aujourd'hui, tout ce qu'on avait. Donc, je vais faire le spécial, je vais le noter, le spécial sur l'origine de la mafia. Vous allez voir, c'est intéressant, sur d'où vient la mafia, les raisons pour lesquelles ils sont aussi rootless, sans pitié. C'est des gens vraiment bizarres. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle ils sont aussi fous que ça. Puis ça dure depuis longtemps, enfin. Anyway, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais faire le spécial là-dessus. Thanks d'avoir été là aujourd'hui. Je vous aime gros comme Beto O'Rourke. Ben des chances de devenir président des États-Unis.